Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe, première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. La géopolitique s'invite à l'Eurovision, l'Ukraine a gagné et Volodymyr Zelensky veut organiser l'an prochain l'édition dans son pays pacifié.
Première mission du prochain gouvernement, travailler sur le pouvoir d'achat des Français. Carole Ferry nous expliquera comment et nous entendrons des restaurateurs.
Dans ce journal également, tout reste possible ou presque en Ligue 1, des places européennes à la relégation. On fait le point et nous serons également à Ajaccio qui retrouve l'élite après 8 ans.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le quintet aujourd'hui à Paris-Longchamp. Mélanie Gomez et Julien Vignali nous conseilleront des petites escapades avec les ponts qui arrivent et Mathieu Noël plaidera pour le Gorafi, vous savez le site parodique qui a de la concurrence. Mais d'abord avec vous, la tendance météo Valérie.
Eh bien la France qui est coupée en deux aujourd'hui avec un plein soleil sur la moitié est, des nuages et des orages forts mais de courte durée sur les trois quarts ouest en fin de journée et surtout ce soir.
Le détail météo bien sûr dans 7 minutes.
Europe 1. Thank you for supporting Ukraine.
Merci de soutenir l'Ukraine.
For every Ukrainian. Slava Ukraine!
Vive l'Ukraine!
Voilà les mots des chanteurs ukrainiens hier soir après leur victoire à l'Eurovision, victoire symbolique et géopolitique bien sûr.
Oui, un grand moment d'émotion pour ce groupe Kalouche Orchestra qui a appelé à sauver l'Ukraine. Notre courage impressionne le monde, a écrit immédiatement après la victoire Volodymyr Zelensky sur Twitter. Le président ukrainien qui dit d'ailleurs vouloir accueillir la prochaine édition dans la ville de Mariupol, libre, pacifique, reconstruite.
Les forces russes qui pourtant continuent d'essayer de progresser dans le Donbass.
Oui, après 80 jours de guerre, les autorités ukrainiennes disent pourtant avoir repoussé des offensives. La situation semble aussi avoir basculé autour de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les autorités ukrainiennes qui affirment avoir lancé une contre-offensive.
Lénaïk, c'est une journée clé pour les Finlandais. Leur pays doit faire acte de candidature à l'OTAN.
Tout comme la Suède, la Finlande veut rejoindre l'alliance militaire. Vladimir Poutine a jugé que la fin de la neutralité militaire d'Helsinki était une erreur. Les explications de Caroline Baudry qui est sur place pour Europe 1.
C'est dans les murs du palais présidentiel, une demeure jaune sur les quais d'Helsinki, que le président et la première ministre prendront la parole à 13h, suivi des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Devant des journalistes venus du monde entier, ils rendront officielle leur volonté de rejoindre sans délai les rangs de l'OTAN face aux géants russes, derrière 1300 km de frontières communes. Hier après-midi, Vladimir Poutine a de nouveau averti son voisin au téléphone. Cette bascule historique est une erreur. Selon lui, il menace de représailles technico-militaires. Depuis plus de 24 heures, la Russie a cessé de fournir de l'électricité à la Finlande, soit 10% de la consommation du pays. Ici, les entreprises se préparent à une éventuelle cyberattaque. Les politiques se disent confiants dans leur armée en cas de conflit. Une fois officialisée, la demande de candidature sera examinée par les 200 parlementaires demain, avant un vote mardi. Helsinki, Caroline Baudry, Europe 1.
Et la Turquie se dit prête à discuter avec la Finlande et la Suède, alors que Moscou a menacé de prendre des représailles, sachant que la Russie a d'ores et déjà cessé de fournir la Finlande en électricité.
Toujours à l'étranger, une fusillade a fait au moins 10 morts aux États-Unis.
Oui, un jeune homme armé a ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo dans le nord de l'État de New York. Le tueur présumé a été immédiatement arrêté sur place et le FBI dit ce matin enquêter sur un crime raciste.
Et puis on reste aux États-Unis où plus de 400 manifestations pour le droit à l'IVG ont eu lieu dans tout le pays.
La Cour suprême américaine prévoit de revenir sur la jurisprudence qui garantit ce droit. Quelques 450 cortèges étaient organisés dans des grandes villes, des marches à Washington, à New York, à Chicago, à Austin et Los Angeles. On entendra le reportage de notre correspondant à 6h30.
6h04, retour en France, Lénaïque. Qui pour succéder à Jean Castex à Matignon? Les choses se précisent.
Alors déjà, on parle d'une démission dans la journée suivie d'une désignation après la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite où il rendra hommage au président des Émirats Arabes Unis décédé avant-hier. Le JDD indique ce matin que 74% des Français sont pour une femme Premier ministre.
On en parlera tout à l'heure. Bien sûr, à 7h40, un gouvernement qui devra d'entrée de jeu plancher sur le pouvoir d'achat.
Avec des prix à la hausse de 5,4% en juin et sans doute encore plus d'ici la fin de l'année, il est difficile de joindre les deux bouts tant l'énergie et l'alimentation ont augmenté ces derniers temps. Emmanuel Macron veut donc une loi d'ici l'été. Précision Carole Ferry.
Ce qui est acté pour le moment, c'est que le bouclier tarifaire sur l'énergie est prolongé jusqu'à la fin de l'année pour le gaz et l'électricité. Pour le reste, tout est en cours de réflexion. Sur les carburants, par exemple, il y aura bien une aide après le 31 juillet, mais qui sera ciblée sur les gros rouleurs, fini les 15 à 18 centimes de ristourne pour tout le monde. Autre mesure sur la table, la mise en place d'un chèque alimentation. L'idée au départ était de viser les produits sains et cultivés en France. Mais pour aller plus vite, le dispositif sera sans doute moins vertueux. Il prévoit de verser une soixantaine d'euros à 8 millions de Français dès cet été. Le gouvernement s'est également engagé à supprimer la redevance télé dès cette année et à revaloriser le point d'indice des fonctionnaires en juillet. Et puis il reste des points en suspens. Y aura-t-il un gel des loyers, par exemple ? Un panier de mesures qui aura un coût très lourd pour les finances publiques. Un projet de loi de finances rectificatif est d'ailleurs prévu après les élections législatives.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.
Tiens, justement, illustration de ces difficultés économiques, la restauration inquiète en tension.
Inflation et télétravail ne font vraiment pas les affaires des restaurateurs et tout particulièrement dans les quartiers d'affaires où la clientèle a quasiment disparu. Reportage de Noah Moussa.
Dans le restaurant de Gianluigi, le coup de feu du midi a laissé place au calme plat. Une situation désarçonnante pour les serveuses. Seules 4 tables sont occupées sur la trentaine que compte l'établissement, situé au cœur d'un quartier de bureaux à Paris. Aujourd'hui, le patron est devant son restaurant et tente d'appâter les clients. Tout l'inverse de ce qu'il vivait avant le Covid et l'arrivée du télétravail.
Avant, en plein service, le restaurant était plein. Il fallait réserver. On faisait des 80-100 couverts tous les jours à midi. Aujourd'hui, si on arrive à faire 40-50, c'est le maximum.
Et puis en plus, il y a la forte concurrence avec les plateformes de livraison. Même au bureau, les salariés se font livrer leur repas au lieu de se déplacer, comme le déplore Marcel Bénezet, président de la branche restauration du Groupement National des Indépendants.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les cuisines fantômes qui vous livrent en 10 minutes chez vous. Donc on ne sait pas d'où ça vient exactement et ça fait du tort à la restauration.
Et selon Marcel Bénezet, les restaurateurs ont perdu 10 à 15% de leur chiffre d'affaires le midi par rapport à avant la crise.
Le reportage de Noah Moussa pour Europe 1.
Léna, on termine avec les sports. La saison de Ligue 1 touche à sa fin. Hier, il y avait des enjeux à tous les étages.
Hein. Oui, l'OM a perdu gros dans la course à la Ligue des Champions après une défaite à Rennes. Monaco est passé devant avec son succès contre Brest. Et puis en bas de tableau, Bordeaux est quasiment condamné à la Ligue 2. Saint-Etienne est désormais relégable. À l'inverse, c'était soir de fête hier en Corse puisqu'Ajaccio retrouve l'élite. Reportage de Jean-François Pérez.
Dès le coup de sifflet final, des dizaines puis des centaines de supporters qui envahissent joyeusement la pelouse. 8 ans qu'ils attendaient ça. Dans les entrailles du stade, même euphorie, tout le monde s'embrasse, s'enlace. Le président Christian Leca est au bord des larmes.
C'est indescriptible. J'ai une joie, une fierté pour tout le club, pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde. C'est extraordinaire.
Ajaccio, petit budget de Ligue 2, club modeste et qui se revendique comme tel, avec comme symbole un entraîneur local attachant qui a tout connu depuis 40 ans et qui pourtant n'en revient pas. Olivier Pantaloni.
On est un petit club, on travaille dans les bureaux. Au plus, on est 8 ou 10 tous les jours. C'était pas pensable en début de saison. Et malgré tout, avec ces petits moyens, on a réussi à le faire.
Avec Ajaccio, c'est la Corse qui revient en Ligue 1 et avec elle certaines vertus que souhaite à rappeler le directeur sportif et légende de la CA, Johan Cavalli.
Beaucoup décrit notre sport parce que la société tourne un petit peu en ce moment et du mauvais côté. Mais on peut voir qu'on reste encore un sport où les valeurs peuvent faire beaucoup de choses contre l'argent.
Les concerts de klaxon ont duré une bonne partie de la nuit et ce n'est pas fini. Cet après-midi, le défilé des joueurs promet d'embraser une nouvelle fois la ville de Napoléon.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Côté sport toujours, il y avait de la boxe hier soir et Tony Yoka a perdu son premier combat chez les pros.
C'était le journal de Lénaïque Monnier. Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors, le temps de votre dimanche, Valérie, pourquoi le temps vire-t-il à l'orage? Parce qu'il fait trop chaud.
Parce qu'il fait trop chaud, mais pas seulement. C'est parce qu'on a un anticyclone qui remonte rapidement d'Espagne vers la mer du Nord en ce moment. Dans le même temps, on a une dépression qui se rapproche de la façade atlantique. Et donc, entre les deux, le vent du sud ramène de l'air chaud d'origine subtropicale. Et donc, la masse d'air est déstabilisée, donnant des orages jusqu'à demain matin. Alors, le ciel de notre matinée reste quand même assez calme avant cet après-midi une reprise orageuse, plutôt en deuxième partie d'ailleurs de cette instabilité sur toutes les régions qui vont s'étendre de Midi-Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, à l'Auvergne, en remontant vers les Pays de la Loire, le centre, le bassin parisien et les bords de Manche. D'ailleurs, ça tonne actuellement en Normandie. Nous ne sommes pas à l'abri d'ailleurs de vigilance dans l'après-midi car ces orages sont rapides mais peuvent être assez violents.
Prudent sur la route, hein, bien sûr. Ailleurs, ça donne quoi?
Ça donne du Roussillon à la Provence, un ciel toujours calme, juste un petit peu couvert à cause du vent du sud justement qui ramène des entrées maritimes. Sur la partie est, vous profitez d'une superbe et chaude journée ensoleillée, même si dans l'après-midi aussi, les orages se développent, mais uniquement sur les reliefs du Jura et des Alpes.
Il va faire chaud, hein ?
Il va faire chaud. Actuellement, les températures évoluent entre 19 à l'heure où on se parle, hein, à Cognac et à Nantes, 18 à Bordeaux, à Vannes et à Toulouse, 17 à Marignane et à Toulon, 16 degrés à Nice, 15 à Nîmes, 14 à Paris, 12 à Lyon, 11 à Strasbourg, 8 à Nancy. Et cet après-midi, des maximales entre 21 à Cherbourg, qui grimpent par rapport à hier de plusieurs degrés quand même, jusqu'à 33 à Auxerre, évidemment à l'ombre et sous-abri, on le sait.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Allez, à suivre.